Grand Référendum. 10h, 11h, Philippe David.
Merci de rester avec nous sur Sud Radio jusqu'à 11h en direct, le Grand Référendum avec Philippe David et ses invités. Voici la question de ce vendredi. Faut-il interdire les écrans aux enfants? Vous êtes parents, vous êtes concernés, vous avez vos enfants qui n'arrêtent pas avec les mobiles, les tablettes, la télévision. Dites-nous ce que vous en pensez, on vous attend au 0826 300 300 et sur sudradio.fr.
À l'heure des tablettes pour bébés et des enfants élevés au smartphone, un médecin de PMI alerte sur les des comportements, je cite, ressemblant à des symptômes autistiques chez les enfants trop confrontés aux écrans. Son constat de terrain, partagé par d'autres professionnels de la petite enfance, fait également polémique. Retard de développement, troubles de la relation, du langage, du comportement, troubles autistiques, les effets d'une surconsommation des écrans chez les jeunes enfants, semblent désastreux si on en croit les résultats de l'enquête menée par ce médecin de l'Essonne et relatée dans les pages du Figaro. Quelle attitude devons-nous avoir avec nos enfants vis-à-vis des écrans en général, qu'ils soient petits ou grands? Faut-il interdire les écrans aux tout-petits? Ces troubles sont-ils irréversibles? Ne faudrait-il pas plus responsabiliser les parents? Faut-il interdire les écrans aux enfants? C'est la question que nous nous posons ce matin dans le Grand Référendum sur Sud Radio de 10h à 11h. Vous pouvez bien évidemment nous appeler au 0826 300 300 et voter sur sudradio.fr, Facebook et Twitter. Avec nous, Edwige Antier, pédiatre, ancienne députée et auteur du livre « J'aide mon enfant à avoir confiance en lui » publié chez Robert Laffont. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Bienvenue sur Sud Radio. Et Anne Lefèvre, psychologue clinicienne et psychanalyste en CMP enfants et ados, présidente de l'association Alerte, association pour l'éducation à la réduction du temps d'écran. Bonjour Anne Lefèvre.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio également. Alors je vais citer l'étude qu'il y a eu. Sofiane, alors les prénoms ont été changés. C'est un petit enfant qui a eu sa première tablette à 18 mois. Sans elle, l'enfant refuse de se mettre à table ou bien de s'endormir, se coucher. En regardant ces petites vidéos, cet enfant a appris quelques mots d'anglais pour la plus grande fierté de ses parents. Mais à l'école, il n'y a pas de tablette. À son arrivée en maternelle, son institutrice s'est inquiétée car le petit garçon ne répondait pas à son prénom et regardait dans le vide. Il acceptait difficilement de rester assis à côté de ses camarades et sans un adulte à ses côtés pour guider ses gestes, il ne participait pas à la moindre activité. Anne Lefèvre, est-ce normal de donner une tablette à un bambin de 18 mois ?
Alors, déjà, petite correction, je ne suis pas psychanalyste, je suis psychologue clinicienne et on voit dans les CMP toutes sortes de troubles et on est alerté effectivement depuis quelques années et avec le développement de tous les supports mobiles, hein, les smartphones et les tablettes tactiles, à des pratiques familiales vis-à-vis des jeunes enfants qui nous inquiètent de plus en plus. Et donc nous rejoignons tout à fait l'alerte de ce pédiatre de PMI qui, justement dans le cadre de sa consultation, à la population tout venant en surveillance du développement et rejoint les observations qu'on peut faire quand on, nous, côté soins. Alors, 18 mois, bien sûr...
C'est très jeune.
Voilà.
À 18 mois, un enfant ne sait même pas parler.
Voilà. Et si vous voulez, non seulement enfin, il ne sait pas parler...
À part papa, maman, quoi.
Voilà. Mais il a besoin de solliciter ses cinq sens, et en particulier de toucher. Il a besoin de solliciter sa motricité, son corps dans l'espace, pour développer des capacités qui sont les prérequis à la construction du langage. Donc, en gros, la recommandation, si on voulait donner des messages un petit peu simples, ça serait pas de tablette, pas d'écran qui soit passif ou tactile avant que le langage soit correctement développé, sachant qu'on va développer la motricité puis le langage, et que donc là, on a une garantie avec la marge de variabilité du développement normal à ce qu'on soit enfin disponible pour d'autres supports, mais toujours accompagné par un adulte. Et donc ça nous mène à toute petite dose, accompagné toujours par un adulte dans les âges de l'école maternelle au mieux.
Edwige Antier, vous êtes pédiatre, ancienne députée, auteur du livre « J'aide mon enfant à avoir confiance en lui » publié chez Robert Laffont. Vous parlez d'ailleurs des problèmes des tablettes dedans. 18 mois pour avoir une tablette, est-ce que c'est quand même normal qu'un bambin de 18 mois qui ne sait même pas parler, à part babiller, on va dire, papa-maman, ait une tablette ?
Le problème, c'est que nous sommes dans une société des écrans, une société digitale. Et donc, quand je suis en consultation, les petits, mais dès l'âge d'un an, dès qu'ils savent marcher, tirent le coude de leur maman pour avoir son portable, qui en fait est une mini-tablette dans son sac, et pour jouer avec. Ils font déjà défiler les photos de la famille, et très vite, les commerçants de tablettes et tout vous disent que pendant que les parents réfléchissent à un modèle, les petits vont sur les tablettes de démonstration et on s'aperçoit qu'ils savent lire et écrire avant que les parents s'en doutent. Donc, c'est un outil qui envahit notre vie. Donc, c'est terrible, je suis tout à fait de l'avis de ma consœur, mais le problème est que les parents vivent dans le numérique. Et donc, il faut carrément, moi je pense que la bonne pratique, c'est quand vous rentrez chez vous, j'espère pas trop tard, parce qu'il faut voir aussi la vie qu'ont les mamans avec les transports en commun. Elles rentrent à des heures très tardives et les enfants s'ennuient et les enfants deviennent très excités d'ennui. Alors, c'est compliqué. Moi, je pense qu'à partir du moment où on rentre après l'école à la maison, il faudrait, idéal, hein, je rêve, hein, mais couper l'arrivée du Wi-Fi. Couper. Et ranger tous ces petits outils, mais de l'adulte aussi, de l'adulte aussi. Parce que si maman est sur son téléphone, ses mails, papa sur son ordinateur, qu'est-ce que fait l'enfant?
L'enfant singe ses parents.
Qui a un grand frère peut-être, qui a déjà une tablette. Parce que si on dit à partir de tel âge, mais il y a plusieurs enfants dans la famille, tout est au bout des doigts. Donc, il ne faut pas non plus culpabiliser les parents d'une société comme ça. Alors, le rêve, c'est vraiment que vous sachiez couper votre Wi-Fi quand vous arrivez et que vous ne le remettiez qu'à petite dose calculée. Mais pour vous aussi, les parents, c'est une règle de conduite commune. Quand on est à la maison, il ne faut pas qu'il y ait de Wi-Fi. Regardez le SMS que j'ai reçu hier soir, d'une maman dont j'avais vu l'enfant qui était très énervé. Et elle a une famille de 4 enfants. Et il y a eu panne de SFR à Paris dans le quartier Trudaine. D'accord. Je vous donne les précisions. Elle me dit, ce soir, les 3 grands se sont éclatés dans la chambre de l'aîné. Cluedo, Monopoly et Trivial Poursuite. Vive les pannes de Wi-Fi. Et elle me répond encore ce matin, je lui ai dit que je venais chez vous et que je lirais son SMS. Elle me dit, franchement, ça isole et tue la vie de famille.
Beau message.
Cette maman. Parce qu'il y avait une panne de Wi-Fi dans la région Trudaine.
Mais justement, vous avez parlé, alors ils sont un peu grands, Wi-Fi, Cluedo,
oui, mais ils
Monopoly.
Sont habitués depuis qu'ils sont
mais
petits.
Mais pour des plus petits, alors
on
va dire Lego ou Capla, ou, ce
mais
serait
oui.
peut-être bien de revenir à ça, non?
Des livres d'images, des images avec tirettes. Alors les pauvres mamans, vous savez, elles rentrent, elles sont crevées. Elles sont souvent monoparentales. Parce que papa, excusez-moi, bah, il est parti avec sa petite assistante.
Je vous fais... Ça, c'est un peu sexiste. Hein.
C'est un peu sexiste, mais c'est un peu surtout mamanïste. Hein. Donc, on va dire que c'est toujours la faute des mamans. Mais bon, elles sont crevées, elles gèrent tout. Alors, si en effet, papa est là, et si papa, lui, peut rentrer aussi assez tôt, sans attendre que les mains soient faites pour avoir la paix, et couper ses canaux et jouer avec son enfant. Oh, merci les papas qui sont là, vraiment.
Anne-le Fèvre, vous avez entendu le témoignage avec les SMS d'Edwige Gentier. Avec les enfants, c'est comme avec les femmes, faut faire le coup de la panne.
En tout cas,
mais là, de la panne de Wi-Fi, hein, pas de la panne
de
voiture.
Nous, on fait la promotion de campagne d'information des parents. Je pense qu'il y a eu un message qui a été très brouillé, parce qu'en effet, certains ravis des écrans ont pu laisser entendre que les enfants pouvaient apprendre plein de choses avec ces tablettes très précocement et qu'on gagnerait des points de QI en leur proposant précocement des choses. Ce qu'on observe, nous, c'est qu'on perd des points de QI. Surtout, on a des retards, on produit des retards massifs de développement à des échelles sociologiques. Donc, c'est pour ça qu'on tient maintenant un discours un petit peu plus informatif et plus ferme auprès des familles. On a bien conscience que la vie est compliquée pour toutes les familles, mais on retrouve ce problème-là dans les campagnes et on retrouve ces problèmes-là pas uniquement dans les zones urbaines. Hein. On trouve ça dans beaucoup de pays, peu développés.
Vous entendiez Edwige Gentier,
oui.
C'est pas obligatoire pour un petit gamin. Alors là, c'était des grands, ils ont joué au Cluedo, au Monopoly, et puis on peut les mettre au Lego ou au Capla, c'est bien pour des petits.
On doit les mettre dans des expériences sensorimotrices.
Désolé de citer des marques. Hein,
avec
mais...
des objets, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Sauf que ça suppose une disponibilité et en tout cas une information des parents sur les étapes du développement. Quand tout va bien, le développement, l'enfant, il passe, il pousse comme ça sans qu'on s'aperçoive. Et quand il y a un problème de développement, eh ben, ou quand on n'a pas de guide précis sur ce qui convient au bon développement des enfants, eh ben, on croit bien faire en leur mettant dans les mains précocement des outils qui sont des outils adaptés pour des enfants qui ont déjà une culture du livre, si vous voulez, qui ont déjà construit lecture, écriture, les fondamentaux, qui ont un esprit critique, mais précocement comme ça, non, c'est pas des objets à mettre dans les mains des tout petits, bien sûr.
Allez, vous écoutez le grand référendum avec Philippe David qui pose cette question. Faut-il interdire les écrans aux enfants? Eh bien, vous êtes maman, vous êtes parent, ou vous êtes enseignante, ou même vous vous sentez concernée. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez, comment vous le vivez aussi tous les jours avec vos enfants. Et vous pouvez voter évidemment sur sudradio.fr pour nous dire ce que vous en pensez et commenter sur Twitter et Facebook. À tout de suite.
Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David.
Philippe David et ses invités, jusqu'à 11h, c'est le grand référendum. On vous pose une question à laquelle vous répondez. Aujourd'hui, on vous demande s'il faut interdire aux enfants les écrans. À vous de vous manifester en direct sur l'antenne 0826 300 300 et sudradio.fr pour laisser des commentaires.
Oui, donc pour le vote, vous êtes 70% à voter oui. Oui, il faut interdire les écrans aux enfants. Bon, maintenant, il faut passer à la pratique aussi. Hein. Bon, et puis on a des commentaires. Celui de Benosaurus Rex qui nous interpelle et nous dit « Les écrans gardent les enfants aujourd'hui car il n'est plus possible de subvenir aux besoins d'une famille avec un seul salaire comme avant. »
Ah, bonne remarque. Oui. Edwige Gentier, qu'est-ce que vous voulez répondre à Benosaurus Rex? C'est un pseudo. Hein.
Oui, mais c'est tellement vrai. Les écrans, quand les parents sont occupés, que les enfants s'énervent, etc., on sait que si on leur donne une tablette, ça y est, on va, comme ils me disent, avoir un peu de répit. Mais en même temps, l'enfant risque de devenir accro parce que c'est très addict. L'enfant a la possibilité d'interagir avec quelque chose qui le fascine, mais qui est un peu répétitif et c'est très addict. Moi, je dis que tout ça, ce sont des outils. Il ne faut pas les diaboliser, ce sont des outils. C'est aux parents d'utiliser comme il faut, voilà, avec les conseils des professionnels, ces outils. Mais on ne peut pas les nier, les outils.
Ah, ils existent.
Ils existent et puis maintenant, on les met même dans les écoles. J'ai vu qu'il y a un collège à Rambouillet avec ses meilleurs élèves. Ils les mettent dans une classe digitale en sixième, les meilleurs. Parce que les écrans, ça peut aussi vous permettre de découvrir le monde.
Mais en sixième, ils ont 11 ans, ils n'ont pas 18 mois. C'est comme
une grosse
différence.
Mais vous savez, les ados deviennent très, très addicts. C'est très dangereux aussi chez eux. Il n'y a plus de dialogue, là, comme je vous disais. La maman dit, vive la panne de Wi-Fi, sinon je ne parle plus avec mes enfants. Mais bien sûr, plus tôt on commence... Là où Madame Lefebvre a totalement raison, c'est que plus tôt on commence, c'est comme les sucreries, vous habituez le palais au sucre et vous habituez le cerveau à la tablette. Et donc plus tôt vous commencez, plus votre enfant sera addict. Donc il faut vraiment éviter de l'introduire tôt et surtout vous-même vous en couper. Panne de Wi-Fi volontaire tous les jours pour pouvoir être disponible à votre enfant. Il faut vous l'imposer.
Anne Lefebvre, vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes présidente de l'association Alerte, association pour l'éducation à la réduction du temps d'écran. Vous avez entendu le commentaire sur le Twitter de Sud Radio de Benosaurus Rex. Il dit « Les écrans gardent les enfants car il n'est plus possible de subvenir aux besoins d'une famille avec un seul salaire comme avant. » Qu'est-ce que vous en pensez ?
Tout est dit, hein, c'est-à-dire que, en effet, les familles qui sont le plus à risque d'exposer leurs enfants avant l'âge requis à des doses d'écran massives sont les familles qui ont des emplois du temps infernaux de par leur travail, que ce soit dans les catégories favorisées ou dans les catégories non favorisées d'ailleurs. Le seul point sur lequel on alerte, c'est qu'en effet, on a repéré qu'il y avait un risque psychosocial, c'est-à-dire que moins on a d'argent ou moins on est éduqué, plus on a équipé les foyers de supports et d'écrans. On est à 10 en moyenne par foyer maintenant, hein, et donc il y a comme ça un effet pervers qui est que plus on est démunis, plus on va risquer d'exposer les enfants à ce type de difficultés. Donc nous on promeut deux campagnes très très simples. Une qui s'appelle Les Quatre Pas, qui se décline avec un petit film, avec un flyer, avec et qu'on diffuse dans les écoles et dans des groupes de parents, qui dit bah, pas d'écran avant de dormir, pas d'écran avant d'aller à l'école, pas d'écran à table.
Hein,
pas d'écran à table. Pas d'écran à table parce qu'il faut qu'on puisse se parler. Voilà, donc ça c'est très simple, c'est appliqué à beaucoup d'âges. L'autre campagne de prévention qu'on promeut beaucoup, c'est les défis sans écran, qui ont été proposés par Jacques Brodeur, un Québécois, dans les années 2000, et qui vient régulièrement faire des campagnes en France tous les ans, depuis un petit bout de temps. Et là, c'est faire une expérience de déconnexion à l'échelle d'un groupe scolaire. Et là, c'est évidemment, ou même de plusieurs groupes scolaires, que ce soit de la maternelle, du primaire ou du collège, sur un district donné, ce qui est évidemment puissamment efficace.
Mais pour vous, Anne Lefebvre, vous êtes psychologue clinicienne, spécialisant les enfants et les adolescents. Est-ce que l'apparition du numérique a changé les enfants? C'est plus les mêmes qu'avant et c'est plus les mêmes ados et ce sera donc plus les mêmes adultes?
Oui et non, parce que...
De point de vue psychologique, bien évidemment, hein.
Oui et non. Nous, ce qu'on voit et qui nous inquiète beaucoup, et c'est, il y a eu un débat d'experts, si vous voulez, sur effet addictogène ou pas des écrans. Maintenant, l'OMS a bien inscrit les écrans dans les critères diagnostiques d'addiction. Hein. C'est en effet les circuits dopaminergiques du cerveau qui sont sollicités, et il y a bien un effet addictogène de ces écrans. Et nous, sur une consultation d'adolescents tout venant, hein, 200 patients, on a sont déscolarisés. Vous voyez, déscolarisés complètement et maintenus au domicile grâce, entre guillemets, aux écrans. Hein, parce qu'on ne s'ennuie pas, on est dans des choses où on peut rester à domicile comme ça et on chronicise les déscolarisations qui sont créées spécifiquement forcément par les écrans, hein, qui viennent voilà, de multiples causes, mais qui sont chronicisées au domicile.
Et ça, c'est des épidémies
dans tous les pays développés.
Edwige Gentil, vous qui êtes pédiatre, auteur du livre « J'aide mon enfance à avoir confiance en lui » publié chez Robert Laffont, le numérique ça a changé les enfants, ça va changer également les ados, comme les enfants deviennent des ados et après les adultes?
Clairement, et certainement changer les comportements agressifs se voient plus. Quand vous essayez de mettre une limite, vous avez des enfants qui vous connaissent plus et qui sont très agressifs. Mais il faut bien dire, et c'est pour ça que j'en parle par rapport à la confiance en soi des enfants, il faut bien dire que nous sommes dans une société où l'école essaie de se connecter, mais elle a été très décalée. Et de ce fait, l'enfant est toujours en échec. C'est souvent, c'est pas forcément l'écran qui provoque l'échec, mais peut-être d'être en échec qui fait qu'on se rassure avec les écrans pour l'enfant.
Allez, vous écoutez le Grand Référendum avec Philippe David qui vous pose cette question. Faut-il interdire les écrans aux enfants? Surtout, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour nous raconter votre expérience. Allez, à tout de suite.
Le Grand Référendum, 10h, 11h, Philippe David.
Vous voulez parler avec nous en direct sur l'antenne, vous pouvez le faire tous les jours sur Sud Radio. Et jusqu'à 11h, c'est le grand référendum. Avec cette question que l'on vous pose, faut-il interdire les écrans aux enfants? Vous avez la parole, 0826 300 300 et sudradio.fr si vous voulez laisser des commentaires.
Oui, vous votez à 69% oui, il faut interdire les écrans aux enfants. On a perdu 1% depuis tout à l'heure pour ce oui. Et hop, on file au standard et on accueille Marie qui nous appelle de Bayonne. Bonjour Marie.
Bonjour Marie.
Bonjour. Alors moi, j'aurais aimé réagir en fait parce que je suis une femme de 36 ans et j'ai eu malheureusement, j'ai beaucoup regardé les écrans depuis toute petite, tout ce qui était les dessins animés et ensuite j'ai continué à l'adolescence avec toutes les séries américaines pas très très intelligentes. Je suis devenue très très accro à ça, j'en pouvais même plus, même mes parents donc ils m'avaient interdit la télé. J'avais uniquement le droit de regarder Thalassa le vendredi soir et je profitais qu'il ne soit pas là car il travaillait beaucoup pour pouvoir regarder la télé. Donc je me suis gavée de toutes ces séries. J'ai fait une dépression quand j'avais 17-18 ans. Je pense que les écrans ne m'ont pas aidée du tout. Avec ça, il y a la malnourriture, la malbouffe. Donc aujourd'hui, je suis maman de deux petits garçons. On n'a pas la télé chez nous. Mes enfants n'ont jamais regardé la télé. Mon premier garçon a 5 ans, le deuxième a 2 ans et demi. Et en fait, je suis très contente d'avoir entendu la psychologue, je crois que c'est Anne Lefebvre.
Anne Lefebvre, absolument.
Et je suis très contente de l'avoir entendu dire qu'il ne faut absolument, enfin, le plus tard possible, c'est le mieux en fait. Et je suis entièrement d'accord avec elle, avec les sucreries.
Voilà. Marie, je vais vous poser une question. Alors vous, vous étiez une accro, vous avez fait une dépression à 17-18 ans, donc en pleine adolescence, on peut dire ça comme ça, c'est encore l'adolescence,
oui,
18
c'est encore
ans.
L'adolescence, jusqu'à 18 ans.
Jusqu'à 18 ans. Et vous, aujourd'hui, vous avez pris carrément le contre-pied, il n'y a pas de téléviseur chez vous, donc
non,
je suppose qu'il n'y a pas non plus de tablette et que vous n'avez pas de smartphone.
Alors si, on a une tablette et un ordinateur, mais la tablette, elle est vue le soir quand on a envie de se regarder un film et on choisit en fait de regarder ce qu'on veut. Et c'est dehors, c'est pas dans la maison. Voilà,
y a mais pas c'est de... uniquement avec les enfants ou sans les enfants?
Sans les enfants, hein. Les enfants sont touchés,
d'accord.
Et on regarde ça voilà, le soir.
Donc vous, les enfants, vous avez, vos enfants, vos deux garçons qui ont 5 ans et 2 ans et demi, vous avez fait des cloisons étanches entre les écrans et vos deux petits garçons?
Voilà, exactement. Il n'y a pas de...
Mais vous vous occupez vous-même de vos enfants quand ils rentrent de l'école et tout ça?
Tout à fait, madame, tout à fait.
Donc voilà, genre, c'est ça, c'est la disponibilité de cette maman.
Exactement.
Aussi, c'est couplé. Parce que, n'est-ce pas? Et oui,
oui,
s'occuper d'enfants, c'est à la fois passionnant, merveilleux, mais très épuisant.
Et très prenant.
Tout à fait.
Très prenant. Et donc,
très
vous
prenant.
Faites... Et c'est un don de soi... Mais précieux, vous avez bien raison. Mais voilà, pour les mamans qui doivent être occupées dans une activité professionnelle, c'est difficile.
Mmh. Anne Lefebvre, qu'est-ce que vous voulez répondre à Marie? Vous avez entendu Marie, 36 ans, deux petits garçons, 5 ans, 2 ans et demi, qui a été accro de télé quand elle était ado, qui en a même fait une dépression, et qui a complètement pris le contre-pied, pas d'écran chez elle.
Ben, je pense qu'elle a...
Sauf pour les adultes, et là, c'est une tablette, il n'y a pas de télé, même pas de téléviseur.
En dehors, elle a dit.
En dehors,
eh bien,
oui.
Écoutez, moi, je ne peux que la féliciter. Je pense qu'elle a fait une lecture tout à fait juste de ce qui s'est passé pour elle, et je pense qu'elle fait bien de prendre des précautions pour ses jeunes enfants, et en particulier pour des garçons qui sont, dans ce qu'on constate, nous, plus vulnérables vis-à-vis des écrans. Voilà, bravo. C'est le message qu'on essaie de faire partager dans des groupes de parents. Je me balade pas mal dans beaucoup d'écoles et je dois dire que j'ai face à moi des parents de tous les milieux et qui sont vraiment en grande difficulté en demande de repères sur ce qui est possible de proposer à leurs enfants. Et donc là, je pense qu'il faut qu'on collectivement on ait un discours à la fois très pragmatique et très non clivant et très informatif pour les risques qui sont maintenant bien connus. Hein. Là, on a cité quelques-uns, il y en a pas mal à citer en complément. Voilà,
mais justement,
je crois que les médias ont un rôle important, les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer. On vient de déposer, dans le cadre d'une audience au Sénat, des recommandations. On espère bien qu'il y a une prise de conscience de ce problème de santé publique, hein, pour les petits, pour les ados, et dans la scolaire primaire, du côté des effets indésirables, du côté des apprentissages.
Alors, justement, on a entendu Marie qui nous appelait de Bayonne. Je vais vous donner un chiffre, Edwige Gentier. Selon une enquête sur les jeunes enfants et les écrans menée par l'Association française de pédiatrie ambulatoire, vous devez connaître l'AFPA,
bien sûr,
qui n'est pas la même que l'Association pour la formation professionnelle des adultes, fin 2016, donc c'est récent, ça a 5 mois, près d'un enfant de moins de 3 ans sur 2, 47%, utilisent des écrans interactifs comme des tablettes ou des smartphones. Près d'un sur deux à 3 ans, c'est donc très courant.
C'est énorme. Mais le problème, c'est...
Marie, c'est vraiment c'est... La révolte basque, on va dire ça comme ça, comme ils appellent de Bayonne.
Oui, et ce travail d'éducation, mais pour faire cette révolte, il faut qu'elle soit disponible, qu'elle ait un mari qui soit solidaire. C'est tout un contexte. Et ce travail d'information des parents est très important. En même temps, le problème est la culpabilité qu'on secrète chez les parents qui vivent dans une ambiance de multimédia, qui ont vraiment un rythme de vie compliqué et qui recherchent à la fois, ils sont tous d'accord, vous savez, les parents, si on faisait un sondage, d'ailleurs ils disent là, ils sont près de 80%, ils sont d'accord avec nous. Mais en même temps, c'est compliqué, comme dirait notre président, mais en même temps...
Hein, la route est droite, mais la pente est forte, là vous nous faites du raffarin.
Et donc je préfère les guider et leur dire que les écrans, c'est juste des outils. Tout dépend ce qu'on en fait. Si un crayon, vous pouvez écrire de très beaux textes, vous pouvez aussi dessiner des choses affreuses ou écrire des choses, des messages morbides. Eh bien, pareil, un écran, c'est un outil. Donc, ce quand on parle de les mettre à l'école, vous savez, aujourd'hui, il y a un plan digital pour l'école. Eh bien, c'est peut-être là que va se faire l'éducation à l'écran. Savoir s'en servir pour apprendre et pour progresser et savoir l'arrêter et savoir s'en détourner et savoir faire autre chose. Il faut une éducation même des enfants eux-mêmes. Ce sont les enfants qui ont appris à mettre leur ceinture aux parents dans la voiture. Ce sont les enfants qui vont nous apprendre peut-être à utiliser les écrans comme il faut.
Anne Lefebvre, vous avez entendu ces chiffres, c'est une enquête menée par l'Association française de pédiatrie ambulatoire fin 2016, donc c'est tout récent. 47% des enfants de moins de 3 ans utilisent des écrans interactifs comme des tablettes ou des smartphones et près d'un sur deux à 3, et un sur deux à 3 ans. C'est quand même très courant. Marie est de Bayonne, c'est un peu l'exception.
Non, c'est pas l'exception. Ces chiffres, ils sont connus. Hein. Nous, ça nous étonne pas. Ça, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on a besoin de. Alors nous, on pense à des recommandations dans le carnet de santé. Voyez, les parents, contrairement à ce que dit Madame Antier, ils se sentent. Enfin, les parents que l'on voit, nous, en groupe de parents, ne se sentent pas coupables, au contraire, ils se sentent portés par le groupe pour essayer collectivement de trouver comment poser des limites vis-à-vis de ça. Eux, ils sont très sincèrement démunis et très sincèrement soucieux de porter un message de réussite scolaire. Et donc, si on leur donne les bonnes informations et si on leur donne des pistes à appliquer, ils seront plus forts dans les limites qu'ils vont pouvoir poser à leurs enfants.
Allez, on file au standard et on accueille tout de suite Fabrice qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Fabrice.
Bonjour Fabrice.
Bonjour. Bon, ben, je rejoins moi les propos de la psychologue, c'est ça?
Oui, Anne Lefebvre.
Oui, voilà. Après, moi je suis, suivant les âges, forcément, quand j'entends, j'en vois bien pour des enfants de 3 ans et j'en vois qui ont des smartphones entre les mains, ben, pour moi, je trouve pas ça normal, mais bon, c'est mon avis. Après, moi, la télévision, ce que j'ai connu, pour la télé, je suis pas pour l'interdiction pure et dure. Pour un apprentissage, c'est pour ça que je rejoins la psychologue, des outils, parce qu'après, on est démunis quand on doit s'en servir. Et plus on va dans la vie active, et plus on doit savoir utiliser certains outils. Avec modération, comment on s'en sert, etc. Après, il y a des âges, et puis les parents, moi, mes parents, c'est simple, hein. La télévision, ben, elle était cadenassée, et puis terminé. Il y avait des heures et
oui,
voilà.
Mon cher Fabrice, je ne connais pas votre âge, mais on a connu nous l'époque certainement où les télévisions, pour appuyer sur les boutons, il y avait une porte qu'on fermait à clé. Ça n'existe plus aujourd'hui.
Ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on pose un truc, on pose la télévision sur une table, mais les anciens meubles télé, moi c'est ce qu'on avait. Il fermait à clé, cadenassé. Quand c'était l'heure, j'avais le droit de regarder. Et puis sinon, eh ben non. Et puis voilà, et mes parents, ils mettaient des restrictions, mais pas des restrictions optimales. Il y a des reportages qui sont magnifiques, et on voyage beaucoup, les enfants peuvent apprendre des choses. La télévision pure et dure, tout fermé, pas de télé, ben, pour moi, c'est trop restrictif. Après, c'est mon opinion. Maintenant, quand je vois des tout-petits...
Fabrice, je vais vous poser une question. Oui. Fabrice, je vais vous poser une autre question. On parle des problèmes que posent les écrans, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème, là, vous parlez de la télévision, du choix des programmes? Parce que si vous mettez votre enfant à regarder un documentaire sur National Geographic ou sur Arte, c'est bien. Si ouais. Vous le mettez devant Touche pas à mon poste, c'est un peu plus problématique, quoi. Je ne vais pas faire que des amis, mais tant pis.
On est d'accord. Non, suivant les âges. Et puis, si l'enfant me pose des questions, ben, je lui réponds. Et il y a l'éducation qui est derrière. Moi, mes parents, quand on tombait sur des films ou à caractère trop... à l'époque, il n'y avait pas hein,
Les carrés les blancs
de
à l'époque.
10 ans, etc. Mes parents
il y avait le rectangle blanc.
Voilà. Ce film-là, quand ils voyaient certaines images... Bon, ce film-là, il n'est pas pour toi. Tu sors de là, terminé. Après, ils me contrôlaient. Moi, par contre, je regardais la télévision, des fois, j'ai vu des films tout seul, choquants. Ben, j'en ai pas forcément parlé à mes parents, mais des fois à d'autres adultes, ils m'ont éduqué, ils m'ont appris. Il y a un discours, il faut surtout pas en fait ou terroriser en disant c'est pas bien ce que t'as vu, nanana, ou alors absolument pas regarder tel genre de film. Il faut vraiment une éducation derrière. Voilà.
On est tout à fait d'accord. Merci beaucoup Fabrice pour votre excellent témoignage. On va faire réagir nos invités, mais ma chère Clémence, oui. Ça réagit beaucoup.
Oui, donc on va prendre un dernier auditeur. Hein,
enfin, pas un dernier pour l'heure,
oui,
avant la pause.
Avant la pause, tout à fait. Marguerite, qui est grand-mère et sûrement une super grand-mère, qui nous appelle de Paris.
Bonjour Marguerite.
Bonjour.
Je vous surnomme Super Nanny. Ah, merci beaucoup.
Je suis une grand-mère, arrière-grand-mère. J'ai 19 petits-enfants et 15 arrière. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup d'enfants autour de moi. Et j'écoute votre émission. Je fais un peu de l'avis du monsieur qui vient de parler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'interdiction totale. Parce que les enfants qui n'ont pas de télévision, moi j'en connais autour de mes petits-enfants, ils sont addicts. Ils n'ont qu'une envie, c'est de la regarder. Ou seulement la télévision, ou les tablettes, ou les téléphones. Si on leur laisse une marge, il faut qu'ils puissent voir certaines émissions, ou certains horaires, que ce soit un programme bien établi, il ne faut pas interdire totalement. Voilà.
Et Marguerite, vous êtes d'accord avec Fabrice, donc de Bordeaux, qui nous disait qu'on en parlait, l'important, notamment pour la télévision, c'est la qualité des programmes qu'on laisse regarder à ses enfants.
Ben évidemment, mais il faut pas que ça.
Parce que la télévision, ça peut permettre de se cultiver.
Oui, mais enfin, il n'y a pas que des programmes barbants à la télévision. Il faut aussi qu'ils voient des choses amusantes, des films amusants, destinés aux enfants ou même. Il faut les sélectionner, il faut lire le programme, acheter le programme de la semaine et on dit, tiens, ça peut être bien pour les enfants, on voit avec eux, tiens, ça te ferait envie de voir ça, et ils sont contents. Ils voient la télévision, ils aiment certaines séries que leurs petits copains voient à l'école. Il ne faut pas qu'ils soient, eux, comme des pauvres petits malheureux, parce qu'eux, ils ne peuvent pas voir ce que tout le monde voit. Enfin, il y a des choses, il faut savoir un petit peu doser. Il ne faut pas que ce soit une interdiction totale, ferme et définitive. Quoi. Les enfants détestent l'interdiction.
Ah, et puis, vous connaissez le principe, vous êtes grand-mère, arrière-grand-mère, Marguerite, c'est toujours meilleur quand c'est interdit.
Mais exactement, c'est pourquoi il faut qu'ils aient une impression que de temps en temps, on leur laisse voir des choses que, bon ben voilà, ça va toujours bien sûr dans le domaine de la morale, du bien-être, du bien,
bien sûr,
etc.
Ça va de soi.
Mais il faut quand même, il ne faut pas tout interdire, il ne faut pas. Moi, je vois dans mes familles, parmi mes petits-enfants, il y a une famille où ils avaient le droit de... Ma belle-fille m'avait dit gentiment, ma babysitter la meilleure, c'est la télé. Bon, s'il y a deux enfants, bon, on ne peut pas dire que ce soit un échec de colère, mais sur les deux, il y en a, c'est vraiment un échec. Les autres qui ont eu la télévision chez eux, mais régulée, pensée, avec le papa, les mamans qui regardaient avec eux, qui expliquaient, etc. Tout a très, très bien marché, mais la trop de télé tue. La télé, en quelque sorte, est pas télé du tout, et serait aussi mauvaise, je crois, parce qu'il faut de la modération.
C'est comme tout.
Mes arrière-petits-enfants, alors c'est très amusant, parce que mes petits-enfants sont beaucoup plus sévères avec leurs enfants que mes enfants n'ont été avec eux.
C'est marrant, c'est meilleur interdit. Mais parfois, vous savez, c'est meilleur quand c'est interdit, c'est ce qu'on disait. Mais parfois, vous savez, il y a un saut de génération en ce qui concerne l'autorité. On doit faire la pause promotion, ma chère Marguerite. Merci beaucoup de votre témoignage. On va faire bien évidemment réagir Edwige Gentil et Anne Lefebvre. Mais ma chère Clémence, il faut vivre.
Et oui, tout à fait, il faut vivre. Et je vous le rappelle, vous écoutez le grand référendum avec Philippe David qui vous pose cette question. Faut-il interdire les écrans aux enfants? Eh bien, vous nous appelez et vous pouvez continuer de nous appeler. C'est la dernière ligne droite, hein, jusqu'à 11h. N'hésitez pas, 0826-300-300. Vous pouvez aussi voter sur sudradio.fr. A tout de suite.
Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David.
Jusqu'à 11h, c'est Philippe David avec ses invités. C'est le grand référendum, comme tous les jours, sur Sud Radio. Et la question du jour, faut-il interdire les écrans aux enfants? 0826-300-300 pour apporter vos réponses et sudradio.fr pour laisser des commentaires.
Oui, sur Sud Radio, vous votez à 73%. Ça ne cesse d'augmenter, hein, pour le oui. Il faut interdire les écrans aux enfants. Et puis, on va vous donner un petit goût du coulisse qu'il y a eu hein, pendant la pause. On parlait du bienfait des grands-mères et à quel point c'était important, les grands-mères.
Et vous pouvez même lancer un hommage à votre grand-mère, ma chère Clémence. D'elle. Et
oui.
Je sais qu'elle nous écoute.
Oui, alors, tout à fait.
Mes hommages, madame.
D'autant plus facile d'interdire les écrans si on a une grand-mère qui vient raconter des histoires et voilà, SOS les grands-mères, alors, on enlève les écrans mais on appelle les grands-mères.
Justement Edwige Gentil, vous avez entendu Fabrice de Bordeaux et Marguerite qui nous appelait, qui disait le problème c'est pas la télé, par exemple là, il parlait de la télé, c'est ce qu'on montre aux enfants. C'est sûr qu'on peut se cultiver grâce à la télé quand même.
Oui, alors le problème justement c'est la différence entre ce que j'appelle la télé-tapisserie.
Qu'est-ce que vous appelez la télé-tapisserie?
On entre, on allume la télé.
Et on met une chaîne d'info, on continue, on laisse tourner pendant 2, 3, 4 heures.
N'importe quoi, c'est une compagnie pour l'enfant.
D'accord.
Et donc, dès qu'il est petit, hein, sur le transat, avec la tétine, et déjà, on allume la télé. Mais oui. Dans beaucoup de familles. Mmh. Et les grands regardent, les petits, on regarde n'importe quoi. Ça, c'est la télé-tapisserie. Mmh. La différence avec la télé partagée. La télé partagée, c'est à une heure à laquelle je décide sur un programme que j'ai choisi. Je suis assise sur le canapé avec mon enfant et je fais des commentaires. Et même sur des petites émissions, Dora, oui, t'as vu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit carte, pourquoi? Et puis après, avec les figurines ou les petits livres, on décline, on raconte des histoires. À ce moment-là, c'est un outil. Et quand on est plus grand, vous le disiez, les dossiers de l'écran, des documentaires, mais ils vont pas les regarder tout seuls. Et même les informations peuvent être très intéressantes sur la géopolitique. Bien sûr. Les enfants se cultivent.
On en parlait pendant la pause. Il y a des émissions qui étaient fabuleuses à l'époque pour se cultiver. Le mardi soir, il n'y avait pas école le mercredi. Les dossiers de l'écran.
C'était top.
Où il y avait un film qui volait haut et un débat derrière autour du film.
C'était... Et vous les regardiez?
Oui, moi mes parents me les laissaient regarder.
À quel âge?
À 8 ans, 9 ans.
Vous voyez, c'est ce qui a fait votre vocation de grand journaliste, Philippe.
Grand journaliste, si, vous me flattez beaucoup.
Non mais ça commence dans l'enfance. Tout ce qu'on est s'inscrit dans l'enfance. Et un enfant auquel, alors le pire... On le laisse avoir accès pour avoir la paix à la tablette, à mon portable, etc.
Justement, vous aviez entendu ce qu'avait dit Marguerite, la meilleure, c'est ce que dit une de ses petites filles, la meilleure babysitter, c'est la télé.
C'est ça, ça veut dire que babysitter, ça veut dire que je m'en occupe pas moi.
C'est ça.
Donc je le mets devant. Et puis tout d'un coup, je fais irruption dans sa pensée et je dis, maintenant on arrête. L'enfant fait une crise, j'en ai marre, et on le gronde. Et là, on démolit sa confiance en soi. Parce que l'enfant, il dit qu'il est un mauvais enfant. Et il m'arrive en me disant, je suis un problème. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est très nocif de couper brutalement, alors que vous l'avez mis dans un chemin imaginaire.
Anne Lefebvre, vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans les enfants, présidente de l'association Alerte, association pour l'éducation à la réduction du temps d'écran. Vous avez entendu Fabrice et Marguerite, ils disent, la télé, c'est pas le problème, c'est ce qu'on montre aux enfants, est-ce que vous êtes d'accord?
En partie, enfin, c'est un problème pour les tout petits dans la petite enfance quand même, hein. Tous les écrans, il y a une campagne du CSA
qui a été faite il y a quelques mois.
Télé, mais nous, on voudrait le généraliser sur tous les écrans pour les tout petits. Pour les plus grands, bien sûr, qu'on peut, qu'il y a des contenus constructifs et qu'il faut pouvoir les sélectionner. Et ça, toutes ces pratiques familiales, évidemment qu'on les soutient, les pratiques de grand-mère, bien sûr. Le problème, c'est que très souvent, il n'y a pas de grand-mère dans le paysage. de proximité, le tissu social s'est défait et on est du coup dans un intrafamilial familial extrêmement vulnérable pour poser des limites. J'ajoute que la télé allumée en permanence a des effets délétères chez les très jeunes enfants, hein, qu'ils la regardent ou pas. C'est démontré maintenant et donc là-dessus, on est assez ferme. Par contre, le problème, si vous voulez, des écrans pour les plus grands, c'est que oui, l'école a probablement une mission d'éducation à l'usage de ces écrans, mais quand ils sont donnés dans les familles, comme dans certains départements où on fournit un ordinateur portable à tous les collégiens, etc., ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils en font des usages pas du tout utile à l'école. Ils en font des usages à 80% récréatifs. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est-à-dire
oui,
un
c'est
outil
clair.
Pour quoi faire ? Un outil pour se cultiver, un outil pour être créatif, oui, mais un outil pour être à 80% sur YouTube et regarder des séries TV qui vont modéliser des comportements...
Ou des vidéos violentes.
Voilà. Non, en effet, et là, il faut faire attention à ce qu'on fait collectivement.
Mais Anne Lefebvre, quand vous entendez Marguerite, qui est 15 fois grand-maman, 19 fois arrière-grand-maman, qui nous dit que c'est une de ses petites filles qui lui dit « La meilleure babysitter, c'est la télé. » Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Marguerite qu'il répétera à sa petite fille?
Non, mais on est bien d'accord que c'est tout le problème. Non, une machine n'est pas une bonne babysitter, voyez. Une machine est une machine. Et quand on livre l'enfant aux machines, dans la petite enfance, on crée des carences massives.
Alors justement, dans cette étude, Anne Lefebvre, on apprend qu'il y a des symptômes autistiques. Autistiques, alors l'autisme, ouais. Ça fait peur chez les enfants qui sont trop en contact avec des écrans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors moi, je pense qu'il faut être extrêmement prudent et qu'il faut faire des recherches sur le sujet, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que nous, on voit en pédopsie arriver pour des diagnostics d'autisme autour de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, des jeunes enfants dont on ne posait pas encore la question de la consommation des écrans dans les échelles diagnostiques requises, hein, recommandées à un niveau international et par la Haute Autorité de Santé. Donc on va inclure ces questions-là un peu plus systématiquement. Donc on peut penser qu'un bombardement sensoriel visuel, auditif, comme sont les écrans à forte dose, est un facteur fragilisant, précipitant, etc. Et certains d'entre eux vont développer d'authentiques autismes. L'autre tableau éventuellement à discuter, c'est plutôt la carence massive, si vous voulez, avec ce que décrivait autrefois dans l'hospitalisme, hein, c'est-à-dire un bombardement sensoriel qui empêche le développement des autres sens, une carence qui a des effets plus ou moins réversibles si on arrête les écrans.
Effectivement. Edwige Gentil, vous êtes pédiatre, auteur du livre « J'aide mon enfant à avoir confiance en lui », publié chez Robert Laffont. Vous avez entendu des symptômes autistiques.
Autistiques, ça fait très peur, l'autisme. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Il y a 2 sortes de cas. Vous avez les enfants qui ont été enfermés tellement tôt, là je dis enfermés, sur ces tablettes et ce digital et cet interactif dans lequel ils sont dans une bulle, qu'on peut se demander si leur comportement autistique, c'est-à-dire ne communiquant pas avec les autres humains, est dû à ça. Ou parfois, j'observe des enfants que j'ai vus tout petits, donc j'ai vu très tôt qu'ils appartenaient au spectre autistique, comme on dit, mais qui, à cause de ces outils, du coup, les parents vont essayer de communiquer avec ces outils qui peuvent aggraver, qui peuvent être des outils. Il faut lire actuellement le livre de Ron Suskin, prix Pulitzer, qui a un fils autiste et qui raconte, le titre ça doit être Un étrange enfant autiste, et il raconte comment les films de Walt Disney en boucle de son enfant, qu'il regardait tout le temps, il a créé même une sorte d'atelier pour ça, avec ça, il est arrivé à ouvrir de la communication. C'est très subtil, très complexe. Donc, c'est des sujets compliqués.
Anne Lefebvre, il y a un autre point. C'est une orthophoniste qui en parle dans cette étude. Elle s'appelle Carole Van Hout. Elle dit, je cite, « Depuis quelques années, je vois des enfants dès l'âge de 3 ans avec moins d'une dizaine de mots à leur vocabulaire. Récemment, il y a eu un nouveau glissement avec l'arrivée de petits dès l'âge de 2 ans et demi qui ne sont pas du tout dans la communication. Ils se comportent comme des enfants sauvages dans leur bulle. Des enfants de 3 ans avec moins d'une dizaine de mots à leur vocabulaire, c'est incroyable. »
Voilà, nous partageons ce constat, nous les professionnels de terrain, de proximité, et c'est pour ça qu'on se permet d'avoir un discours un petit peu plus ferme du côté de la petite enfance, hein, même si on avait déjà beaucoup alerté du côté du primaire et du secondaire. Oui, en effet, c'est un constat, et on sait bien évidemment que le pronostic, du coup, et ça c'est les spécialistes de l'illettrisme qui le disent, hein, le pronostic scolaire n'est pas le même quand on a un vocabulaire aussi pauvre quand on va se confronter ensuite au CP, apprentissage, lecture et
plus on a un vocabulaire vaste, un enfant, plus on réussit à l'école en général.
Bien sûr. Alors, la seule bonne nouvelle dans ce contexte-là, c'est qu'on pense qu'il y a une petite prise de conscience en ce moment. On a une nomination de ministre de l'Éducation nationale qui semble ouvert et attentif à ces questions-là, ces questions du langage oral, voilà, du pronostic scolaire en CP, etc. Donc, on verra. Mais là, je crois qu'il faut que les professionnels de l'éducation nationale et de la santé se mettent ensemble, et de la protection de l'enfance.
Pour aller voir ce qui se passe.
Edwige Gentil, il nous reste 30 secondes. Pour voir la recherche qui se fasse un peu sérieuse sur ces sujets, et puis qu'on fasse des recommandations dans des commissions un petit peu pérennes.
Edwige Gentil, en 10 secondes,
oui, tout à
très
fait
peu
d'accord.
De vocabulaire aux enfants de 3 ans.
Nous sommes tout à fait d'accord. Moi, je forme des équipes dans une centaine de crèches, et nous dépistons de plus en plus d'enfants en retard de langage. C'est une très belle campagne et c'est un très beau travail.
Merci beaucoup Edwige Gentil, pédiatre, auteur de « J'aide mon enfant à avoir confiance en lui », publié chez Robert Laffont. Merci beaucoup Anne Lefebvre, psychologue clinicienne et présidente de l'Association pour l'éducation à la réduction du temps d'écran. Verdict Clémence.
Vous êtes 73% à voter. Oui, il faut interdire les écrans aux enfants. Merci à vous Philippe David. On vous retrouve tout de suite avec André Bercoff.